C'est un quartier qui a une identité forte. Il y a beaucoup de gens qui ne se laissent pas marcher sur les pieds.
Est-ce que nous sommes décidés à nous battre jusqu'au bout pour rester dans la Marolle?
Vous savez, à l'époque, la Marolle, ma belle famille m'a dit « Vous n'allez pas aller habiter dans ce quartier de crapules quand même. »
Allez, fouillez, fouillez. Bon prêt. Allez, mesdames et messieurs.
Il n'y a que en Belgique que c'est tous les jours, été, comme hiver, Noël. La fin du monde, il y aura un marché le matin.
C'est vrai que c'est mouvementé. Hein. Si on aime le calme, il faut aller à la campagne.
Regarde ce ziverer ou cette sorte de queue qui passe là.
C'est très belge, quoi. C'est très bruxellois.
Le souci, c'est que vraiment, les bâtiments sont délabrés.
On est cerné de Airbnb, en tout cas, dans notre immeuble.
Faut être honnête, les bourgeois reviennent. Les bobos.
Le quartier des Marolles, c'est un joyeux melting pot de brocanteurs, de familles venues d'ailleurs, de vies cabossées et de zouances bruxelloises. C'est un quartier qui parle fort, qui résiste et qui raconte Bruxelles mieux que n'importe quel guide touristique. Coincé entre l'imposant palais de justice, les antiquaires du Sablon, l'hôpital Saint-Pierre et le chemin de fer, les Marolles attirent de nombreux curieux en quête d'authenticité. Je m'appelle Sofia Kotsoglou. Je suis journaliste à la rédaction bruxelloise de la RTBF. Ma famille a quitté la Grèce pour s'installer en Belgique dans les années 80. J'avais 4 ans et le premier souvenir que j'ai de Bruxelles se situe dans les Marolles. La place du jeu de balle et son marché aux puces, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire des Marolles pour m'accompagner à la création sonore Jean-Marc Vircet. Épisode 3. Les Marolles, terre d'accueil. Si le vieux marché de la place du jeu de balle n'a pas beaucoup changé en 150 ans, le reste du quartier, lui, s'est métamorphosé. Je retourne chez Michel, qu'on a entendu dans le précédent épisode sur la bataille de la Marolle. Michel est l'un des derniers artisans du quartier.
Je m'appelle Michel de Schwitter et je suis menuisier ébéniste et je suis indépendant depuis 1979, ici dans le quartier des Marolles.
On a rendez-vous devant sa boutique au 77 rue Haute, une rue qui s'est complètement transformée en 50 ans.
La rue Haute qui était une zone de vêtements, donc magasin, costumes, hein, comme Mickey's, des chaussures, et aussi tout un vieux tissu, parce que la rue Haute étant la vieille rue du quartier, d'alimentaire, mais d'alimentaire petit, des triperies, des boulangeries, des boucheries. Et rue Blas, c'était une rue où il n'y avait que deux types de magasins. Il y avait les marchands de papier peint et les marchands de lustre. Et moi, quand je suis arrivé, Jacques Motte aurait fait encore son café ici, rue Haute.
Ça devait sentir bon.
Ah, ça sentait bon. Donc on avait soit, suivant d'où venait le vent, ça sentait le café, sinon ça sentait le chocolat quand ça venait de la gare du Midi, parce que là, Côte d'Or avait son usine.
Cheveux gris en bataille, petite lunette ovale sur le nez, salopette bleue pleine de sciures, Michel m'emmène à l'arrière de son atelier, un immense entrepôt équipé d'anciennes machines.
Nous, comme on est fabricant producteur à Bruxelles, on ne sait pas produire des objets pour les vendre. On est beaucoup trop cher par rapport à tout ce qui est fait dans les camps de travail des pays de l'Est ou d'Asie. Donc nous, on ne travaille que sur mesure.
Et vous dites « camp de travail ».
Oui, hein, bah, ce qu'elle fait en Asie, chez nous, il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent faire 7 jours par semaine, 14 heures par jour et dormir sur les établis. Hein. Pour moi, c'est des camps de travail, ça.
Si Michel est bien ancré dans son quartier, son installation dans les Marolles n'a pas été une évidence.
C'était une autre image. Vous savez, à l'époque, les Marolles, ma belle famille m'a dit « Vous n'allez pas aller habiter dans ce quartier de crapules, quand même ?» C'était pire que Molenbeek, les Marolles, en 79. Quoi. C'était vraiment les sous-lots, les alcooliques, la prostitution. On n'avait pas peur des vendeurs de drogue qui se tiraient dessus, mais il y avait vraiment une très mauvaise image. C'était sale. C'était encore plus sale que maintenant, parce que tout le monde croit que la ville est sale, mais par rapport à ce qu'elle était avant. Moi, j'ai eu un voisin, il récupérait du fil électrique, il mettait ça dans un petit poêle dans la cour et brûlait les fils électriques avec une fumée infâme qui se répandait partout pour récupérer le cuivre, quoi. C'était vraiment...
Donc aujourd'hui, c'est propre.
Ah, par rapport à ça, oui. C'était des bidonvilles, comme un bidonville dans une ville du tiers-monde. Il y avait vraiment des gens avec du carton et de la tôle sur leur tête. Parce que ce quartier, c'est un endroit où les exclus de la société se sont rassemblés depuis longtemps. parce que c'est un quartier près des gares, c'est un quartier où il y avait moyen d'aller vite partout, donc de pouvoir vendre. Vous imaginez gagner votre vie en ramassant des vieux chiffons. Qu'est-ce que vous pouvez gagner là-dessus sans avoir de véhicule à moteur, en ayant une charrette à bras, ou des vieilles ferrailles, ou des trucs comme ça. C'était vraiment des gens très, très gagne-petits, mais qui arrivaient à survivre parce que, bon, ils sortaient de guerre où ils avaient été les perdants de toute manière. Ils étaient déjà pauvres avant, ils étaient encore plus pauvres après.
Nous quittons son atelier, direction la place du jeu de balle. On s'arrête devant un bâtiment art déco. Michel m'invite à lever les yeux. Sur la façade, des carrelages couleur crème et une inscription « Les bains de Bruxelles ». Mais Michel m'apprend que ce lieu n'a pas toujours été une piscine.
Là, il y a une très vieille tradition, puisque les bains de Bruxelles ont été d'abord conçus, pas pour nager, mais pour se laver avec des baignoires, avec des douches. Et à un moment donné, c'était sur la place, hein, avant la construction du bâtiment. Il y avait des bains sur la place du jeu de balle, hein, des baraques en bois avec des baignoires dedans, quoi. Enfin, des baignoires, des douches et tout. Hein. Parce qu'on n'avait pas chez soi, c'était compliqué. Il faut s'imaginer un feu à charbon pour faire chauffer une bassine avec des casseroles qu'il faut vider dans la bassine. Si on n'est pas vif, le temps qu'on a vidé la dernière casserole, l'eau, elle est déjà froide, quoi.
Je quitte Michel, mémoire vivante de ce quartier si bouillonnant. Pour approfondir l'histoire des Marolles, je descends à présent vers les voies du chemin de fer. Rue des Tanneurs, sur un coin, des habitués discutent devant une épicerie. Bonjour monsieur.
Bonjour madame, dites-moi.
Chemise claire impeccablement repassée, pantalon bleu marine, l'allure de l'épicier tranche avec les châssis décrépits de son magasin. Votre fils me dit que vous parlez bruxellois, marolien.
C'est-à-dire que moi je suis né ici, après si je suis un vrai marolien, ça je ne sais pas. Je veux dire, j'ai grandi ici avec les... Oui, on peut dire peut-être que je suis un marolien.
Ça fait combien d'années que vous êtes ici dans le quartier?
Ici dans le quartier, ça fait bientôt 56 ans, madame.
Vous vous appelez?
Abdel.
Abdel. Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 56 ans. Si j'habite ici depuis 56 ans, c'est que j'ai 56 ans. J'ai pas plus, hein. Peut-être j'ai l'air plus.
L'épicerie d'Abdel semble résister au temps. Au-dessus des rez-de-chaussée voisins, des lettrages à moitié effacés rappellent qu'il y avait ici une vie commerçante. Aujourd'hui, tous les volets sont baissés.
Et ici, dans le temps, ici, c'était une boucherie belge. Ici, c'était un magasin italien. Ici, c'était un magasin espagnol. Ici, c'était un café. Ici, un peu plus loin, il y avait une triperie. C'était une rue commerçante ici avant. On avait aussi une librairie qui vendait des livres, des journaux, des cigarettes.
C'était... Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, rien de tout ça, vous voyez bien, madame. Tous les cafés, ici, dans le quartier, c'était un quartier pauvre, ici, au départ, à la base. Je veux dire, les anciens Belges de l'après-guerre ont vendu leur maison, ont quitté leur maison pour aller habiter où? Pour aller habiter, on va dire, à ce moment-là, on appelait ça, nous, les blocs. Des bâtiments, c'était moderne, vous comprenez, c'était luxueux, ça veut dire que tout était sur le même palier, salle de bain, tout ce que vous voulez. Tandis qu'ici, dans les vieilles maisons que vous voyez ici, on disait les arrière-cours. Donc arrière-cours, vous voulez aller aux toilettes en plein hiver, vous allez sur le pot, votre fesse était collée dessus.
Il faisait froid.
Voilà, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de double vitrage, il n'y avait rien de tout ça. Avant, c'était des vieilles charrettes qui passaient par ici, hein. C'était les manouches qui passaient par ici avec leurs vieilles charrettes, des choses comme ça, quoi. Et il y avait des ordures partout. Excusez-moi de l'expression, il y avait de la merde partout. Parce que les vieilles, ils avaient des chiens, et leurs chiens, excusez-moi de l'expression, ils chiaient partout. Il n'y a pas un jour où on rentrait par la maison avec du caca dans les souliers. C'était les Marolles. Vous croyez quoi, les Marolles? C'était pas l'avenue Louise ici, madame, hein?
Pour mieux comprendre cet héritage social, je retrouve Julien sur la place du jeu de balle, épicentre du quartier.
Julien.
Bonjour, Sophia.
Julien Gastello, je suis habitant. Maintenant, j'ai eu pas mal de rôles dans ce quartier.
Un quartier dont il connaît chaque ruelle, chaque recoin. Pendant plusieurs années, Julien a coordonné un nombre incalculable d'associations actives ici dans les Marolles.
Il doit y avoir au moins 100 structures qui font du travail dans le quartier. Ouais.
Par rapport au nombre d'habitants, c'est énorme.
C'est énorme et on n'arrive pas à couvrir les besoins. En fait, les Marolles, c'est spécialisé dans la précarité, on va dire. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent en dehors du quartier, en dehors de la région même, qui viennent chercher de l'aide tout simplement. Vous voulez que je vous montre mon coin préféré de la place du jeu de balle ? Ça s'appelle Les Amis de la Petite Maison.
Ah, je connais pas.
Ok, on y va.
Donc là, on voit vraiment une façade qui fait quoi 2 mètres de large entre l'église et le café, le Schaff, avec des volets bleus.
Oui, c'est une jolie petite maison. Je crois que moi, c'est mon lieu préféré de la place du jeu de balle parce que c'est un lieu que personne ne connaît. Et c'est un centre d'accueil de jour pour, on va dire, des personnes qui sont un petit peu en situation, en difficulté ou qui ont besoin de chercher un refuge pendant la journée pour boire un café, se reposer un petit peu. Et dès qu'on entre, on se sent ailleurs, on se sent en paix. On est très bien accueillis par l'équipe d'ailleurs.
On peut entrer ?
Moi, je pense qu'on peut y aller, ouais, je les connais bien, on va essayer.
Bonjour.
Bonjour.
Entrez.
Qui sont les gens qui sont ici ?
Je dirais que c'est pas mal de personnes sans chez soi, comme on dit. Des personnes qui sont peut-être souvent isolées, parce qu'il y a beaucoup de personnes isolées dans le quartier. Je crois que c'est plus de 50% hein, des personnes qui vivent dans les Marolles vivent seules. Et c'est des personnes qui ont aussi parfois quelques problèmes, des petits soucis mentaux, qui ont besoin de sortir, mais de se sentir sécurisées. Donc ici, c'est un espace où on ne juge pas, où on accueille tout le monde. Il y a des petits canaris qui sont là. Enfin, c'est vraiment un petit peu en dehors du temps. Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a toujours un petit quelque chose. Maintenant, j'ai une serrure. Je cherche une serrurière en cylindre. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour le mettre. Je vois.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît ici, dans la petite maison ?
Ah, c'est un petit point d'ancrage. Oh, comment on dit ça ? Un petit point d'ancrage, quoi. Je veux dire, voilà. On essaie de se faire des amis et de faire des choses ensemble. De faire, on joue aux cartes ou papoter, voilà.
Alors des lieux comme ça, ici, dans les Marolles, il y en a quand même pas mal.
Il y en a. Je crois que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui n'habitent pas le quartier, qui viennent dans les Marolles, passer la journée, trouver un refuge. Parce qu'ici, en fait, on a accès à tous les besoins primaires gratuitement. On peut se laver son linge. Il y a des douches ici, là, au bain du centre. On peut dormir aussi, en journée ou l'après-midi, ou si on a de la chance la nuit, mais c'est difficile. Et puis on peut se soigner. Il y a des maisons médicales, il y a des centres de santé mentale. Et c'est convivial, en fait. On ne se sent pas jugé ici, c'est important. On est traité comme un égal, avec toute l'humanité qui se doit. Et je crois que c'est important, ça fait vraiment partie de la culture du quartier, de la culture de solidarité du quartier. Et je crois que c'est quelque chose qui existe depuis 1000 ans. Hein. Les Marolles, c'est 1000 ans de précarité, c'est aussi 1000 ans de solidarité.
L'association où je vous emmène à présent existe depuis plus de 50 ans, direction le 118 rue Haute, sur la façade peinte en bleu. Une enseigne avec un mot écrit en grand, Nativitas.
Bonjour, je m'appelle Sophia, je suis journaliste à la RTBF.
Je pousse la porte de ce restaurant social.
J'en ai déjà une casserole entière. Hein.
Oui,
oui.
C'est
maintenant jamais. Oui, je dois le découper et je le mettre dans le bain-marie.
Le lieu fait penser à une auberge sur le chemin de Compostelle. Il est 14h30, des bénévoles distribuent des repas gratuits.
On a reçu des restes de l'école d'en face, qu'on reçoit tous les jours. On a les restes du midi, qui étaient du poisson. Et ensuite, on servira encore du bœuf au poivre qu'on a reçu d'une boîte d'événements.
Elle, c'est Jo, responsable de l'intendance chez Nativitas, une association qui porte bien son nom.
Chez Nativitas, c'est Noël tous les jours, et pas seulement le 24 décembre. C'est la générosité, l'ouverture du cœur, et on donne tout ce qu'on peut pour essayer d'apporter un peu bien-être et de chaleur à nos usagers.
Quand on rentre ici, on a vraiment l'impression d'être dans une auberge. Les murs sont patinés, il y a des grosses poutres apparentes.
Un petit troquet bruxellois. Voilà, c'est vraiment le marolien, typiquement marolien. Et c'est l'esprit qu'on veut conserver. Donc on pourrait moderniser, mais on ne veut pas, parce que justement, c'est ce côté chaleureux et typiquement bruxellois qui attire les gens.
Sur les tables, des nappes à carreaux rouges et blancs, je m'approche de Christiane et de son fils Ludovic. Ils prennent leur premier repas de la journée.
J'ai été expulsée abusivement de mon logement le 16 décembre 2025, après 20 ans dans un logement social. Je peux le citer, le foyer Anderlechtois, où on nous a jeté comme de la merde, je peux le dire.
Donc du coup, depuis, vous n'avez plus de logement ?
Ben, on a dormi dans le métro, madame. Moi, 66 ans, avec plus de 66% d'incapacité. Mon fils, il est reconnu handicapé ou SPF Sécurité Sociale. On nous a jeté comme des malpropres. On a jeté la moitié de mon appartement, ma prothèse dentaire également, je n'en ai plus. Pas pour arriéré locatif, parce que j'ai toujours payé mon loyer pendant 20 ans. Nous, ça fait que la deuxième fois qu'on vient. Et l'accueil est très chaleureux. On manque de lieux comme celui-ci. Tout le monde peut venir, tout le monde est le bienvenu. Que ce soit de n'importe quelle condition sociale et religieuse. Donc il n'y a pas d'a priori. Donc c'est la maison du bonheur.
Comment vous avez poussé la porte de Nativitas ?
Je crois que c'est de bouche à oreille en fait. Je ne sais plus qui exactement nous a donné l'adresse. Et c'est de qui encore ? C'est qui nous a donné l'adresse ?
Des gens qui sont depuis longtemps déjà, qui errent à la rue.
Vous vous sentez comment ici ?
On se sent bien, franchement, on se sent bien.
On peut donc participer à des activités ludiques, des jeux de société. Donc on nous propose des excursions ainsi que des balades et plein d'activités différentes. Et ça rompt l'isolement des personnes précarisées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui ne voient jamais d'autres personnes.
Mais en fait, c'est un mal pour un bien. Comme on a été expulsé, maintenant on retrouve beaucoup de gens, on sort beaucoup plus. Et moi je me sociabilise parce que je prends des médicaments assez forts. Et j'étais très isolé, j'avais une dépression. Et maintenant, comme je sors, je ressors, je retrouve des gens, c'est convivial ici, je me sens bien. Et pour ma dépression, c'est très bon, quoi. Donc je me sens vraiment bien.
Je quitte ce lieu hors du temps pour retrouver Julien. La précarité dans le quartier, il la connaît bien. Pendant plus de 10 ans, il a coordonné l'aide sociale dans les Marolles.
À la base, c'est un quartier qui se situe à la sortie ou à l'entrée de la vieille ville. Et c'est là où les clochards, les juifs, les tziganes étaient renvoyés après 18h, lorsque la ville fermait. Il semblerait que le mot clochard vienne du son de la cloche qui, à 18h, plus ou moins, hein, je pense, signifiait à tous les indigents « il faut sortir là, il faut sortir de la ville ». Et donc le clochard, c'est quelqu'un qui est bienvenu ici.
Qui atterrissait ici au Marolles.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que, voilà, qui atterrit toujours ici dans les Marolles. Hein. Le clochard, on en connaît tous, c'est des amis aussi.
Pour comprendre cette facette du quartier, Julien me propose de remonter le temps. Depuis des siècles, les Marolles sont une porte d'entrée dans la ville, une terre d'accueil pour ceux qui arrivent d'ailleurs. L'histoire des Juifs de Bruxelles s'est d'ailleurs écrite ici, sur les pavés des Marolles.
Là, on passe devant un pavé doré qui rappelle qu'ici, il y a des Juifs qui ont vécu et qui ont été exterminés ici à Auschwitz, par exemple. Donc voilà, c'est une population. Un autre monsieur qu'on a croisé tout à l'heure parlait d'Italiens, d'Espagnols surtout. Maintenant, il y a beaucoup de Marocains, population africaine. Enfin, ça tourne, ça tourne.
Partir, Michel l'ébéniste, lui, n'y a jamais songé. Mais il le constate, le dialecte marolien, savoureux mélange de flamand et de français, se perd de plus en plus.
Ici, la langue dominante, c'est le farsi, c'est un dialecte arabo-berbère.
C'est plus le vieux marolien. Les vieux maroliens, ils sont plus là. Dès que ça va mieux, la personne qui a un faible revenu quitte le quartier à faible revenu pour aller dans un endroit qu'elle trouve un peu plus chic, parce qu'elle a envie qu'il y ait une ascension sociale au niveau de sa famille. Donc une partie des maroliens sont partis à Berkem, à Jette ou ailleurs, parce que c'était moins cher que d'aller à Woluwe ou à Uccle quand même. Quoi.
Aujourd'hui, une population plus fortunée revient dans les Marolles, où les très rares appartements en vente partent à prix d'or. Des nouveaux commerces s'installent, des boulangeries au levain, des friperies, des salons de tatouage, des cantines bio, des cafés branchés. De quoi déboussoler les plus anciens. La gentrification des Marolles, on en parle dans le quatrième et dernier épisode.